Forêt santé, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que voilà, pour moi, c'est vraiment intimement lié. J'en ai parlé un peu hier, j'en parlerai tout à l'heure. Et je me suis dit, bah, je vais essayer d'inviter des gens qui vont témoigner de leur travail, de leur recherche. Et évidemment, j'ai pensé à Ernst Jurcha, qui est, vraiment, je le remercie d'avoir accepté de venir. Il y en a sûrement déjà qui le connaissent, parce qu'on l'a, il a fait un livre qui n'est vraiment pas passé inaperçu à juste titre. Il est aussi très présent sur YouTube. Vous pouvez donc le voir. Il y a sûrement des gens qui le connaissent. Voilà, c'est quelqu'un qui, depuis quelques décennies, a travaillé sur l'arbre. Il est ingénieur forestier. Il enseigne à Polytechnique, à Zurich et à Lausanne. Et donc, le titre qu'il avait choisi pour ce livre, c'est les arbres entre visibles et invisibles. Parce que c'est vrai que les arbres, pour la plupart d'entre nous, il y a quelque chose de très visible. Il y a un tronc, il y a des feuilles, il y a des branches. Ça peut faire du bruit un peu quand il y a du vent, ça peut nous abriter quand il pleut, mais c'est beaucoup plus que ça. Et il y a toute une partie donc non visible, mais dont on dépend vraiment pour notre survie. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc là, il a préparé une conférence sur vraiment la relation arbre, forêt et santé de l'homme. Et voilà. Merci Ernst et bon après-midi à tous.
Merci pour cette introduction. Merci d'être ici, à vous tous, de vous intéresser à ces sujets qui sont de plus en plus vitaux, de plus en plus décisifs pour notre vie dans le futur. Les arbres et la santé de l'homme, ça s'inscrit exactement dans la ligne de ce livre que Thierry vous a présenté hier, de Georges Plaisance, « Les forêts et la santé ». Plaisance axe donc son sujet plutôt sur la santé humaine, mais on se rend compte que la santé humaine et la santé de la Terre sont beaucoup plus liées que ce qu'on peut imaginer. Et si la Terre va bien, l'homme va bien, et si la Terre va pas bien, c'est quand nous, on a un problème au départ. Donc on a vu hier un peu ce qu'on pouvait faire pour régénérer la Terre, quelles sont les modalités de fonctionnement de la Terre, avec une notion centrale qu'on va retrouver ici. C'est de la sylvosphère, de la sphère forestière qui est le mode de fonctionnement fondamental de la nature. Et qu'est-ce que ça signifie pour l'homme à toutes sortes de niveaux. Et là encore, ça vaut la peine vraiment de distinguer entre ce qui est visible et ce qui est invisible, entre le structurel et le fonctionnel. C'est bien plus intéressant de comprendre une fonction parce que les structures peuvent être variables et remplir une même fonction, mais la fonction, c'est la partie invisible de ce qui nous occupe en général. Voilà, alors, le monde d'aujourd'hui se présente un peu comme ça. On a des bouleversements qui sont en train d'avoir lieu, des perspectives qui ne sont pas tout à fait rassurantes dans tous les domaines, et surtout la jeunesse qui est en train de s'énerver, de se réveiller. Autrefois, je présentais cette petite fille qui était assise sur un radiateur, c'est celle qu'on a vue hier, sur son radiateur à qui on expliquait le changement climatique, c'est simplement la mobilité, l'habitat, l'industrie, transport aérien et le changement d'affectation des terres. Et on a compris que c'est beaucoup plus vaste que ça. Il s'agit du visage de la Terre qui est impliqué dans ces changements. On a changé la configuration de la Terre d'une manière fondamentale. Et tout ça, la Terre ne le prend pas simplement sans réagir. Et maintenant, ce changement du visage de la Terre, il y a aussi un retour, un impact de retour. Et ceux qui le sentent très fort, parfois de manière consciente ou inconsciente, c'est naturellement la jeunesse. Et là, ils ne sont pas tout à fait d'accord d'entrer dans ce monde qu'on leur met à disposition et qu'on continue à leur... à abîmer, à mettre en péril. Donc il y a des réactions qui sont très fortes. Et ces réactions, pour moi, s'il faut voir le côté positif des choses, c'est des énergies qui veulent prendre les choses en main de manière sérieuse et ne pas faire semblant de traverser une vie simplement au service de quelque chose qui ne l'intéresse pas. Et là, il y a une des pancartes qui est intéressante. Je ne sais pas si elle est visible ici. Mais c'en est une que j'ai lue peut-être ailleurs. C'est celle qui dit respect existence, respecter l'existant, l'existence, or, ou bien, expect resistance, ou attendez-vous à de la résistance. Donc, des résistants comme ça, on a vu ce qu'ils ont apporté à la France, on en a besoin aujourd'hui pour le monde du futur. Donc, cette jeunesse est vraiment appliquée, et on ne va pas parler de la manière dont ma petite fille a pris forme aujourd'hui, qui a décidé de faire quelque chose de sa vie. On ne va pas parler de ce qui est derrière cette magnifique personnalité de Greta Thunberg, mais le fait est, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de la jeunesse qu'il faut prendre au sérieux. Et c'est à nous d'offrir des nouvelles perspectives pour que ces énergies puissent s'y investir. Alors, le monde des adultes, le monde actuel, il s'est pas mal compromis du point de vue de la véracité ou bien du point de vue de la mise sous influence du grand public. Très peu savent qu'on aurait eu des choix vraiment très, très intéressants, très efficaces il n'y a même pas si longtemps, ou il y a déjà très longtemps, ça dépend comment on le dit. Par exemple, une voiture qui était prête pour le marché de l'automobile, qui s'appelait Loremo. La Loremo, c'est Low Resistance and Mobile. C'est une voiture poids-plume, 550 kg, petit moteur, très légère, 2 ou 4 places. Déjà à l'époque, c'était en 2001, prête pour le marché, salon de l'automobile. On n'entre pas dans le salon de l'automobile si on n'est pas capable de produire ces véhicules pour le grand marché. Donc, elle était prête pour ça. Et cette voiture avait déjà à l'époque un design fabuleux. Aujourd'hui, c'est tout à fait à la mode, tout à fait apte à encore aujourd'hui entrer dans le marché. Elle consommait 2 litres au 100 km. Elle avait déjà une option électrique. Elle coûtait 11 000 euros. Elle aurait coûté 11 000 euros. Prête pour marché en 2001, en 2011, 10 ans plus tard, la majorité des actions de cette entreprise est rachetée par un acheteur anonyme. Par source indirecte, j'ai appris que c'était quelqu'un un peu du domaine, du secteur. 2013, plus d'informations sur cette entreprise-là. Et en 2017, elle est mise en état de faillite. Elle est dissoute par un tribunal, en première instance, un tribunal du domaine économique. Cette voiture a disparu. C'était en Allemagne. C'était le salon de Francfort, je crois. En France, il y a aussi des choses intéressantes dont je ne vais pas parler ici parce qu'on ne peut pas aller partout. Et cette voiture-là était prête. C'est ce que l'industrie automobile était capable de faire de mieux. Et aujourd'hui, on a des affiches qui ressemblent à ça. 20 ans plus tard, et là, c'est le slogan traduit en allemand. La durabilité n'a encore jamais procuré autant de fun. Ça, c'est la durabilité. Des voitures qui produiront en 2020, 1935 kilos, c'est juste ce modèle-là, ils sont tous un peu du même acabit, 2 tonnes, et curieusement, exactement 4 fois le prix, 46 000 euros. Et ces voitures, bien sûr, elles ont une technologie fabuleuse, elles ne consomment que 8 litres au 100, je pense, 2 fois 4. Et on est fiers d'avoir des voitures qui sont très économes, mais on ne dit pas qu'elles pèsent 2 tonnes alors qu'elles pourraient peser 500 kilos. Et voilà ce que le marché met sur la... Et la jeunesse n'accepte plus ça. Elle ne se fait plus avoir, elle ne se laisse plus berner de cette manière-là. Et là, il faut vraiment commencer à réfléchir et à fonctionner autrement. Voilà, ça, c'est juste pour poser le cadre. Il y a un monde qui se moque finalement du problème du réchauffement climatique, qui ne se réduit pas simplement à du CO2 en trop. Ça se résume aussi à des problèmes hydrologiques, comme on l'a vu hier. Mais ce monde-là n'est plus crédible. Donc, à quoi est-ce qu'on va passer? Qu'est-ce qu'on va entreprendre? Et comment est-ce qu'on va nous occuper de nous-mêmes aussi, de la formation, de l'enseignement des jeunes? Tout ça, c'est des questions qui ont beaucoup à faire avec la reconnexion à la nature. Et il y a une dimension très intéressante si on étudie un peu les récits anthropologiques d'anciennes cultures, mais on sait ça pour la nôtre, on est aussi un peuple premier européen quelque part, quelques générations modernes, mais avant nous, les grands-parents ici dans la Creuse avaient des savoir-faire incroyables, connaissance des plantes sans avoir les noms latins à disposition. Tout ça, c'est des peuples premiers, en fait. Et ces anciennes générations, les peuples celtes, le Limousin, par exemple, c'est le territoire des Lemovis, c'est les guerriers de l'Orme. Lem ou Elm, c'est le même mot. Et le Limousin, c'est le territoire de l'Orme. Limoges, c'est le lieu de l'Orme. Et les Lemovis, c'était les guerriers de l'Orme. Ici, l'Orme était roi. Et c'était un arbre probablement sacré pour ces peuples, pour ce peuple qui portait le nom de l'Orme, tout comme le peuple des Eburovis, les guerriers, grâce à la force de l'If, étaient des peuples de la région normande autour d'Evreux. L'Eure, tout ça, c'est l'If, le territoire de l'If, comme ici, c'est le territoire de l'Orme. Là-bas, l'If était sacré, mais d'une manière absolument inimaginable, et de ça, on a encore des restes en Angleterre. En Angleterre, où des ifs sacrés sont restés intouchés. Et c'est des arbres monumentaux, absolument étonnants, qui ont été protégés par leur sacralité. Dans le Limousin, je ne sais pas s'il y a encore quelques ormes rescapés. Peut-être pas, c'est plus difficile pour les ormes. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Toutes les anciennes cultures proches de la nature qui ont su vivre en équilibre avec la nature avaient toujours une part de la nature qui était quelque chose comme sacré, comme respecté de manière absolue. Et ici, en Amazonie, naturellement, on a le capoquier, le ceiba, pentandra, qui existe autant en Amérique du Sud qu'en Afrique. Et cet arbre, c'est un arbre fabuleux qui est respecté d'une manière tout à fait concrète. Et on va voir qu'il y a des raisons précises à ça. Et lorsque vous approchez de cet arbre, vous allez voir que c'est à peu près ça. C'est absolument renversant. C'est une puissance végétative et de présence absolument inimaginable. Ces arbres étaient très utiles à ceux qui se perdaient dans la forêt, parce qu'il suffisait de taper contre les contreforts, ça fait résonner vraiment très, très fort, très bas. Et cette caisse de résonance permettait à ceux qui étaient au loin de savoir où quelqu'un s'est perdu. Parce que nous, une fois qu'on est perdu en forêt, on ne peut pas s'orienter, on ne sait pas faire avec ça si on n'est pas du lieu. Donc on peut signaler sa présence et on vient nous chercher. Voilà, ça c'est la forêt tropicale amazonienne dont les peuples ont, au courant des générations, appris des manières de vivre avec la nature et même en composant avec la nature, pas seulement se défendant contre la nature, des connaissances de plantes aussi incroyablement complexes, développer des poisons de flèches qui permet de faire tomber l'animal alors que sinon il s'agripperait dans l'arbre en étant tué par une flèche non empoisonnée. C'est ce qui a donné le développement du... Donc, c'est eux qui ont développé le curare et ça a été ensuite utilisé par la médecine moderne. Et c'est une recette absolument compliquée et qui change selon les régions de plantes entrant dans la composition. C'est... Alexandre de Humboldt, qui a été le premier à comprendre ce qui se passait là avec ce curare. Alors, tous ces savoirs, c'est fabuleux, toutes ces cultures qui étaient là depuis très longtemps, en harmonie avec ces forêts, en équilibre en tout cas, avaient toujours une part sacrée, des arbres qui étaient considérés comme intouchables ou interdits d'être touchés. Et là, c'est intéressant lorsque les ethnologues ou les anthropologues s'approchent de ces cultures avec une autre attitude que ça a été le cas pendant très longtemps, comme Bruce Albert, qui est devenu finalement ami de David Kopenawa, Yanomami. Et là, on confie ce qu'on sait. Et l'ethnologue parle de sa culture comme l'Amazonien parle de la sienne dans les deux sens. Et là, il y a un rapport de confiance qui s'établit. Et là, on entre dans ce qu'on sait de plus précieux et de plus essentiel, qu'on échange. Et là, ce qui est intéressant, c'est que David Kopenawa parle de cet arbre sacré, de ce ceiba, qui est un arbre qui fait la pluie. Un arbre qui est absolument essentiel au fonctionnement de la forêt. Et ceux qui sont venus de l'extérieur, qui ont abattu ces arbres, qui ont pensé mieux de planter des manguiers, des choses intéressantes naturellement, et d'autres essences intéressantes du point de vue économique, ont remplacé une forêt en complète faculté de fonctionnement par une forêt déjà abîmée et qui ne fonctionne plus normalement. Parce qu'on a enlevé ces arbres auxquels on n'a pas le droit de toucher parce qu'ils font la pluie. Et c'est effectivement la situation, comme on l'a décrite hier, ces arbres, on comprend maintenant, et c'est en principe ces arbres qui sont dominants dans cette forêt, vous avez la canopée principale, et quelques arbres dépassent cette canopée, ils ont une autre fonction, et ces arbres majeurs sont essentiels pour naturellement le climat forestier en dessous. Et maintenant, on sait pour la forêt dans son ensemble, mais probablement que ça concerne ces arbres en particulier. Les chercheurs russes dont j'ai parlé hier, Anastasia Makarieva et Viktor Gorshkov, ont découvert que ces forêts amazoniennes, avec l'énergie solaire, font de l'évapotranspiration, font des nuages, font des précipitations et mettent en route tout un cycle hydrologique, hydrogéoclimatique, essentiel pour toute la Terre. Tout le bassin amazonien est considéré comme, eux, ils l'appellent une pompe hydrologique. Moi, je préfère parler ici d'un cœur climatique, finalement, parce que ça pulse. Vous avez plusieurs cycles d'évapotranspiration, précipitation, jusqu'à arriver au contrefort des Andes. Et tout cela est détourné contre le nord et contre le sud pour tempérer le nord et le sud du continent américain, éventuellement même européen, au travers du Gulf Stream. Tout ceci grâce à ces arbres sacrés des Yanomami. Naturellement, les autres peuples ont aussi cet arbre, et parfois d'autres, qui sont considérés comme essentiels à la forêt et qui ont une autre fonctionnalité que celle de produire des fruits ou du bois. Voilà, donc, on se rend compte maintenant qu'il y a une chose qu'il faudrait réapprendre face à la nature, c'est tout simplement le respect. On peut aborder cette question naturellement en détail. Qu'est-ce que ça signifierait pour nous? On l'a fait un peu hier. Voilà. Alors, on est en train de découvrir cette forêt dans toutes ses fonctionnalités. Et là, c'est intéressant de voir où on en est aujourd'hui dans ses connaissances. C'est ce que Georges Plaisance en disait déjà. Ces forêts santé sont maintenant vraiment étudiées médicinalement. Par des spécialistes. D'abord, ça s'est fait au Japon et maintenant, vous avez des films qui ont été tournés là-bas. Pascal Derm, Natura, le livre existe. Et maintenant, c'est les médecins, les hôpitaux européens qui s'intéressent au sujet. Et ça bouge pas mal. Il y a une forêt santé qui vient de s'installer près de Bordeaux. De notre côté, en Suisse, ça bouge aussi. Il y a tout un mouvement. Les forestiers sont intéressés, les médecins sont intéressés, et naturellement les patients. C'est que d'aller dans les forêts, de s'immerger dans les forêts, a vraiment des effets tout à fait étonnants. Et c'est, comme on l'a entendu hier dans la conférence d'introduction de Thierry, c'est en fait reconnecter avec notre mémoire profonde, cette notion d'inconscient collectif. On a la mémoire de toutes les générations humaines qui nous ont précédés, ces 500 000 ans d'Homo sapiens nomades cueilleurs, chasseurs-cueilleurs, et progressivement ensuite cultivateurs. Tout ça, c'était dans le cadre des arbres. Et de retourner en forêt, c'est aussi quelque chose qui a une action ou bien une fonctionnalité au niveau psychologique. Là, je ne vais pas entrer dans le détail de ces analyses. Tout a été étudié, finalement, la fréquence cardiaque, respiratoire, les substances, les hormones. Tout est différent selon si on est en ville ou si on est en forêt. Et là, c'est assez intéressant de comprendre une notion essentielle, toujours la même, c'est tout simplement le secret de l'arbre. Je pourrais rester là-dessus et puis on pourrait arrêter la conférence parce que ceci est vraiment important et ça fait partie finalement de l'enseignement aussi. On ne nous a jamais enseigné, même en arrivant à la fin d'une formation d'ingénieur forestier, on n'a encore jamais enseigné ou bien compris ou bien voulu expliquer. En fait, on n'y avait même pas réfléchi. Qu'est-ce qui rend à l'arbre? Qu'est-ce qui rend l'arbre capable de devenir ce qu'il est, d'acquérir ses dimensions spatiales et temporelles? C'est parce qu'il n'a pas besoin chaque année de refaire, de poser sa graine au sol et de recommencer à zéro, en fait, comme le font les plantes annuelles. C'est cette notion de graine qui se pose progressivement sur une assise organique déjà formée avant. Donc cette graine, cet embryon de nouvelles tiges, parce que chaque graine, c'est un embryon de nouvelles plantes, cet embryon de nouvelles tiges n'a pas besoin de retourner au sol. Et maintenant, l'arbre, il appelle ça simplement le bourgeon. Si vous coupez le bourgeon en long, vous allez voir que tout est déjà préparé. C'est une tige télescopiquement comprimée avec les ébauches foliaires minuscules. Et ça va s'étirer lorsque le bourgeon pourra s'ouvrir au printemps. Et là, au bout de la branche et latéralement, vous avez des nouvelles pousses qui poussent, des pousses annuelles. Donc l'arbre est une colonie de pousses annuelles qui crée sa propre enveloppe. Et lorsque les arbres se mettent ensemble, ça fait une enveloppe commune, la canopée ou la lisière. Voilà, alors là maintenant on a cette notion de sphère forestière, l'arbre qui fait cette sphère, la forêt qui fait cette sphère, une connaissance essentielle au niveau de la biologie, c'est de réaliser que l'organe essentiel de tous les êtres vivants, ce n'est pas le noyau cellulaire. On croit toujours que tout se décide au niveau du noyau. C'est essentiel, naturellement, ce qu'il y a au niveau du noyau, mais il y a beaucoup de cellules qui n'ont pas de noyau et qui vivent parfaitement bien. Depuis des millions ou même des milliards d'années, c'est des procaryotes, des cellules avant d'avoir un noyau. Il y a des cellules qui n'avaient pas de noyau. C'était disséminé, le matériel génétique, disséminé dans le protoplasme, dans le cytoplasme. Et ces cellules unicellulaires ou pluricellulaires, avec ou sans noyau, ne pourraient pas vivre sans un organe qui est essentiel, c'est la membrane cellulaire. Et cette membrane cellulaire, ce n'est pas simplement un sac qui enveloppe la cellule, c'est une membrane qui est à la fois lipophile et hydrophile, une partie super. Elle est construite en deux couches, c'est la double couche phospholipidique, il y a du phosphore. Alors, lorsqu'on parle de phosphore, on a tout de suite l'attention qui s'éveille parce que c'est un élément absolument essentiel dont on ne sait pas tellement comment on va le remettre en route dans les cycles naturels. C'est phospholipidique, l'intérieur est lipophile et donc hydrophobe et l'extérieur est hydrophile, attire l'eau. Donc, c'est en principe une membrane très active du point de vue électrique ou électromagnétique en lien avec l'eau, dont on pourrait parler des différentes phases, lorsqu'elle est en contact avec les membranes hydrophiles. Et cette membrane cellulaire qui enveloppe toutes les cellules, c'est justement un endroit où il y a des échanges dans les deux sens, au travers de cellules intégrales, comme on les appelle. Certaines forment comme des canaux qui permettent d'absorber des substances ou aussi d'en éliminer. Alors comment la cellule sait ce qu'il faut absorber et sélectionner encore à ce niveau-là? Et comment éliminer, tout ça, c'est d'une complication fabuleuse. Et ce n'est pas au niveau du noyau que ça se décide, c'est au niveau de cette périphérie cellulaire. Et d'autres cellules intégrales sont pleines, mais traversent aussi entièrement la paroi cellulaire et sont comme des organes de perception. Il y a des organes de perception chimique à l'extérieur, électromagnétiques, tactiles, acoustiques. Tous les signaux que nous, on perçoit, c'est la même chose pour tous les organismes dans d'autres domaines de fréquence parfois, sont perçus par les cellules et transcrits à l'intérieur par ces protéines en désordre pour le cytoplasme. Il faut que le cytoplasme puisse s'organiser, puisse s'orienter qu'on soit une amibe ou un humain, c'est la même chose. Il faut savoir s'orienter dans son milieu pour réussir ce qu'on a à faire. Et Lipton mentionne ce phénomène, cette membrane cellulaire, comme étant le siège de l'intelligence cellulaire. Et si on fait un parallèle avec nous-mêmes, on réfléchit naturellement dans ce sens-là, quelle est notre membrane essentielle, notre membrane de protection, qui protège tout notre liquide intérieur. C'est l'épiderme, naturellement, c'est la peau. Et là-bas, on a aussi, en fait, dans la peau, des endroits où la peau est un peu plus compliquée, des modifications de la peau, des métamorphoses de la peau, là où il y a des contacts avec le système nerveux particulièrement intenses et spécifiques, c'est les organes des sens. Les yeux, le système olfactif, les oreilles, tout ça, c'est des modifications de la peau, simplement connectées au système nerveux de manière plus intense. Mais toute la peau est extrêmement connectée au système nerveux. En fait, chaque partie de peau a tous les organes à disposition. La peau voit aussi, la peau sent, la peau respire. Eh bien, les organes des sens sont des spécialisations, sont des accentuations, en fait, de cette capacité de percevoir dans les différentes modalités. C'est donc nos protéines intégrales, c'est les yeux, les oreilles, etc., qui perçoivent l'extérieur et qui nous transmettent à l'intérieur des informations, bien nous permettent de comprendre ce qui se passe en dehors. Et là, je ne dirais pas, sachant cela, comme Bruce Lipton, le siège de l'intelligence est dans la membrane cellulaire, je préfère dire que l'outil de l'intelligence est dans nos organes. Parce que nos perceptions ne servent à rien si on ne les a pas réfléchies, si on ne les a pas pensées. On doit travailler avec notre intelligence sur les perceptions pour savoir dans quel lien est-ce qu'il faut les mettre par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Donc maintenant, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces organismes, cette enveloppe et les outils de leur intelligence. Et là, on peut retourner en forêt avec une nouvelle proposition de lecture, sachant que cette forêt forme cette enveloppe, y compris la lisière, qui est particulièrement riche en espèces, arbustives, arbustes, arbrisseaux, plantes annuelles. La forêt dans son ensemble est restée dans beaucoup de régions la partie sauvage d'un paysage. Et le sauvage du fait sauvage de la forêt, c'est vraiment la lisière, c'est là-bas que les choses se passent. Et maintenant, ça nous permet de lire la forêt d'une manière nouvelle, de cette manière-là. Sachant que ce qui se passe dans cette enveloppe est vraiment essentiel. Voilà, donc vous avez ici une lisière forestière, et c'est vraiment une enveloppe très opaque. On ne voit jamais à l'intérieur de la forêt si on la laisse vraiment pousser à sa manière. Ou si vous survolez une forêt intacte, vous n'allez jamais voir un mètre carré de sol, à moins qu'il y ait eu un accident, un incendie ou quelque chose d'autre. La forêt s'enveloppe vraiment. Et là, on a quelque chose d'intéressant. On a en fait de nouveau cette membrane, disons phospholipidique, c'est plutôt du carbone, d'hydrogène, l'oxygène et un peu de phosphore. Là, le végétal, c'est du carbone, d'hydrogène et d'oxygène, pratiquement que ça. Le végétal, mais la forêt, c'est du végétal et de l'animal. C'est pas simplement du végétal tout seul. On imagine toujours la forêt comme étant de la végétation et c'est tout. Si vous retirez cette végétation, vous allez avoir tous les animaux qui restent. Est-ce qu'ils vont pouvoir survivre? Bien sûr que non. Mais si vous retirez tous les animaux de cette forêt, est-ce que la forêt va pouvoir survivre? Là, on est en train d'avoir une conclusion tout à fait différente. On peut se poser des questions sérieuses. Est-ce que la forêt est viable sans la faune? Est-ce que la flore est viable sans la faune? Et là, maintenant, avec la notion de coévolution, on sait que c'est vraiment tout à fait douteux que ça puisse fonctionner, puisque tout a évolué dans ce sens-là. Tout a évolué par coévolution plus ou moins étroite. Prenez simplement la flore, le végétal, et ce qui est un peu, c'est encore autre chose que la faune, mais c'est quand même pas de la flore, c'est le champignon. C'est carrément un troisième règne, la fonge, qui fait les mycorhizes. Eh bien, sans les champignons, la flore ne fonctionne pas. Eh bien, sans les animaux, je pense qu'on a des raisons de croire que la flore ne fonctionne plus très bien et risque de dépérir. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez cette lisière. C'est là que la faune a son siège préféré. C'est sous le prunelier noir que le blaireau va faire son terrier, le renard. Et ces aiguilles du prunelier, ce n'est pas pour protéger le prunelier contre la dent de l'herbivore. L'herbivore se débrouille très bien malgré ses aiguilles, ses épines. On a entendu ça pour les acacias du Maroc. Le prunelier, il a développé, si on veut parler de stratégie, mais le terme est un peu simplificateur, à cette manière de pousser pour devenir intéressant pour la faune, pour que la faune puisse aller s'abriter de tout et elle être protégée contre d'autres prédateurs faunistiques. Donc lorsque le renard ou lorsque un petit rongeur va s'installer sous ses épineux, il est protégé vraiment très bien par ces épines. Si vous voulez protéger un jardin d'une manière naturelle, vous mettez de l'épinette et des choses comme ça. Les chats ne vont plus traverser et aller piller les nids qui sont au sol peut-être. Donc on a ici toute une faune et cette faune, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de très mobile, c'est la partie mobile de la forêt. C'est en fait les ambassadeurs de la forêt, c'est les organes d'essence de la forêt. Le renard est envoyé 3 km et il revient. Il vient atterrer sa poule sous son prunelier noir. Et le prunelier noir adore ça parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir une poule qui pourrit dans les racines. Pour avoir un beau rosier, il faut enterrer un chat crevé, disaient les anciens. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la part azote qui est ramenée régulièrement par la faune. Les fourmis vont à 50 mètres et reviennent. Elles reviennent avec des réserves de nourriture. Elles reviennent après avoir mangé, après avoir chassé. Elles reviennent en laissant en tout cas les déjections. Et s'il y a des jeunes à nourrir, naturellement, c'est aussi des restes de nourriture et les déjections de la portée en plus. C'est très intéressant lorsqu'on pense aux oiseaux. Les oiseaux vont plus loin et parfois beaucoup plus loin et ils reviennent à leur forêt. Ils vont même sur d'autres continents, les oiseaux migrateurs, et reviennent avec pas seulement des substances, mais des messages, des informations. L'oiseau qui a vécu la moitié de sa vie ou bien la moitié de l'année sur un autre continent, il a absorbé de l'eau de là-bas, il a respiré de l'air de là-bas, il revient différent. Et c'est surtout valable pour les rivières dont les forêts sont les sources, en fait. La source des sources, c'est les forêts, et la source donne les rivières. Et là, vous avez aussi ce va-et-vient de la faune piscicole qui descend la rivière lorsque c'est les jeunes alevins qui vont aller coloniser. Et les poissons adultes, en principe, remontent la rivière pour le frais. C'est les grosses truites. C'est les saumons qui reviennent de l'océan pour remonter leur rivière et pour pondre pour le frais. Et c'est plutôt là où la rivière est petite et superficielle que viennent mourir les gros poissons. Et c'est la fête pour tous les prédateurs, pour tout l'environnement. Ce n'est pas pour les prédateurs seulement, mais c'est pour toute la végétation qui reçoit ce courant de phosphore qui a forme de saumon ou de truite qui viennent de l'océan, bien du bois du torrent, de la rivière. Et ce phosphore remonte la rivière et vient alimenter les prédateurs, mais ces prédateurs alimentent aussi tout le paysage avoisinant et les champignons intermédiaires vont aussi distribuer ça d'une manière très, très rapide. Donc vous voyez, cette forêt communique en fait avec le monde entier. Cette forêt intégrale qui a sa faune, dont on n'a pas coupé les rivières par des barrages. Et c'est comme ça que la forêt veut fonctionner. Ça, c'est une forêt intégralement dotée de son système de vie, coévolution. Voilà, alors, pour l'être humain, on a maintenant ce problème. Le syndrome de déficit de nature, décrit par Richard Lowe. Comme de retrouver une forme de respect, c'est retrouver une forme de lien avec la Terre qui est essentielle. Et on n'est pas tout à fait sur la bonne voie en ce moment avec notre jeunesse où on octroie de plus en plus d'heures d'enseignement à la connectivité technologique plutôt qu'à la connectivité naturelle. Et là, ce besoin de reconnexion nous concerne, mais à plusieurs niveau, si je prends ce visage de la Sibylle de Delphes, de Michel-Ange, c'est tous nos organes des sens, c'est tous nos sens, et même ceux qui ne sont pas représentés ici, qui sont impliqués par cette reconnexion à la forêt. Et je pense que plus les sens sont invisibles et peu mis à contribution, et plus cette reconnexion est facile, finalement. Mais tout d'abord, la forêt, indirectement, pour se reconnecter avec la nature, il faut comprendre que c'est un milieu qui nous a toujours livré des substances essentielles, des fruits, de la verdure, des plantes, naturellement, mais le bois a toujours été essentiel. Donc, on est capable de gérer des forêts sans les abîmer, en couvert continu, pour qu'elles livrent non seulement des fruits, des feuilles, des plantes, médicinales ou pas, mais aussi du bois. Et il y a une manière de gérer des forêts respectueuses qui permet d'en extraire du bois qui, en même temps, régénère les forêts. Et que signifie ce bois par rapport à notre manière de vivre, de nous loger? C'est tout d'abord un problème humain, ce problème de dilapidation du patrimoine énergétique du sous-sol. On construit encore et toujours de cette manière-là des matériaux qui ne font que d'émettre du CO2 dans l'atmosphère. C'est de l'acier, du verre, du béton, de l'aluminium, le pire de tous. Ça ne fait que d'émettre du CO2. C'est pas du tout moderne, même si c'est transparent. C'est provoquant ces sources de réchauffement climatique, si on prend simplement le critère CO2 pour expliquer ça. Alors qu'on peut construire avec du bois, lorsqu'on l'a à disposition. Et avec ce bois, on peut carrément incorporer des quantités énormes de CO2 qui sont prises à l'atmosphère par les arbres, naturellement, qui délaissent l'atmosphère du surplus de CO2 et qui est bloqué ensuite dans ces bâtiments. Et de vivre dans un bâtiment de ce genre-là par rapport à un bâtiment de ce genre-là, c'est très, très différent pour la santé de l'homme. On voit un peu ces salles, c'est des salles de classe entièrement boisées. J'ai enseigné là pendant pas mal d'années. C'est un climat de classe absolument fabuleux, entièrement boisé. C'est un plaisir d'y être, on n'est jamais fatigué, les élèves non plus. Et ils restent même dans l'école le soir, lorsqu'ils ont des fêtes à faire, tellement ça leur plaît. Donc on pourrait parler des bilans carbone. Lorsqu'on gère la forêt de manière naturelle, on a un bilan extrêmement positif pour une calorie, en principe, entre guillemets, fossile, qu'on peut même avoir renouvelable lorsque c'est du biofuel, on est capable de produire 7 calories de sillage renouvelable, c'est-à-dire des produits permettant de construire. Donc, en investissant les derniers restes de pétrole, par exemple, d'essence, on peut avoir un effet multiple en réintroduisant du CO2 dans la biosphère sous forme de construction. L'agronomie actuelle, l'agriculture industrielle intensive, elle a un bilan beaucoup moins intéressant. Pour produire une calorie comestible, il faut 12 calories fossiles. Ça, c'est une analyse pour les États-Unis. Ça change un peu de pays à l'autre, mais en Europe, on est peut-être à 4. Mais encore, pour produire une carotte, il faut une calorie de carotte, il faut 4 ou 10 ou 12 calories fossiles. Donc, cette agriculture-là, on devrait tout de suite la fermer parce qu'elle est source de réchauffement climatique si on se limite à l'effet carbone. Mais en plus, il y a la modification des cycles hydrologiques qui joue aussi dans ce sens-là lorsque c'est ce type d'agriculture. Lorsque c'est de la viande d'élevage intensif, c'est même pire, c'est 26 calories fossiles pour produire une calorie de viande de bœuf. Voilà. Alors, comment passons-nous de ce modèle d'agriculture à un modèle inspiré du modèle forestier qui est bénéfique au climat? Et bien, entre deux, il y a l'agroforesterie. La question, c'est combien d'arbres est-ce qu'il faut pour arriver à un bilan au minimum neutre et le mieux possible positif. Voilà. Alors, il y a des solutions intéressantes qui ne sont pas que sous forme de bois. Il y aura beaucoup de reboisements qui sont planifiés. Est-ce que les politiciens vont tenir leurs promesses? Attendant de voir, mais des agriculteurs se mettent déjà en route pour produire du matériau de construction très intéressant pour la santé. C'est le chanvre. Il y a des briques à base de chanvre, développé par un homme du secteur du béton, qui a eu un burn-out parce qu'il a réalisé dans quelle voie il était en train de travailler. Et il a développé un nouveau type de brique basé chanvre. Et là, c'est fabuleux parce que c'est extrêmement léger, mais c'est en même temps porteur, ça isole. Et il a obtenu déjà des prix d'un tel bâtiment. Ça, c'est un bâtiment en chanvre dans lequel c'est très agréable de vivre. C'est un peu comme le phénomène argile ou bois qui équilibre le climat et dans lequel on se sent très bien. Donc ici, vous avez un bilan positif aussi. C'est beaucoup de carbone sous forme de chanvre. Avant, c'était beaucoup de bois pour un certain niveau d'énergie émis qui, en principe, est inférieur. Voilà. Alors, lorsqu'on construit en bois, et ça concerne la santé et le bien-être, on a un sentiment de bien-être. Vous arrivez dans une maison, vous vous sentez bien ou bien vous sentez des courants d'air, vous vous sentez pas tout à fait à l'aise. Et ça dépend pas seulement de la température de la maison, de la pièce dans laquelle vous êtes, mais ça dépend beaucoup de la température des parois de cette pièce. Si vous mettez les mains sur une paroi, la paroi du mur extérieur, vous allez sentir si cette paroi est chaude ou froide. Lorsque c'est de la pierre ou bien du minéral, c'est en principe très froid. Et si c'est du bois, de l'organique. Et autrefois, dans les châteaux, on mettait des tentures, de l'organique. Et là, cette tenture était chaude, elle n'était pas froide comme le mur derrière. Et si on met des caméras infrarouges, on va se dire, mais si le mur est froid, mais si la pièce est chaude, qu'est-ce que ça joue comme rôle? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces sources de chaud ou de froid sont visibles, en fait, avec les caméras infrarouges. Une source chaude en caméra infrarouge est vraiment rouge ou jaune, et une source froide est bleue. Donc, vous avez des murs bleus autour de vous et votre corps, il ne va pas se laisser berner par ça. Il sent qu'il y a du froid partout autour. Et je pense que ça peut déclencher quelque chose comme du stress. Il fait froid autour et ici, il fait peut-être un peu chaud. Et c'est autre chose que si les parois entières sont chaudes. Et là, on a moins besoin de chauffer. Température de la pièce pour le sentiment d'un climat agréable. Lorsque les parois sont à 17 degrés, on a besoin de chauffer à 20 degrés la pièce. Mais lorsque les parois ont 21 degrés, c'est très peu de différence, elles sont un peu plus chaudes, on a besoin de chauffer la pièce à 17 degrés pour avoir le même sentiment de confort. Donc là, vous voyez tout de suite où on peut investir pour avoir énormément d'effets d'économie d'énergie si on arrive, en isolant les parois avec du matériau organique, de descendre de 20 à 17 degrés, ou bien 19, restons tranquilles. Pour la température de la pièce, mais on est étonné à quel point les parois jouent un rôle. Donc là, c'est la santé et l'économie en plus. Et lorsque c'est du bois, on a découvert ça pour le bois de Pinsambro, la Rolle, en Suisse, on se rend compte que ça a un effet sur l'activité cardiaque. Le cœur bat plus lentement lorsqu'on dort dans un lit d'arôle, une chambre à coucher enveloppée d'arôle, et c'est à raison de 3500 battements de cœur par jour que le cœur est calmé lorsqu'on dort dans ces atmosphères boisées. Et des études ont été faites ensuite avec des classes d'école qu'on a enveloppées de bois. Elles étaient standards avant. À côté, on a laissé la classe standard et on a eu deux classes à comparer l'une avec l'autre. Et on s'est rendu compte que la même chose avait lieu avec les élèves. Beaucoup plus reposés, beaucoup moins nerveux, beaucoup moins fatigués avant les vacances. Beaucoup plus agréable pour l'enseignant aussi, naturellement. Comme je disais avant, le seul bémol, c'est que ces classes étaient un peu plus difficiles à gérer parce qu'elles avaient plus d'énergie. Voilà ce que le bois apporte. Et c'est très facile à voir dans toutes les communes, dans toutes les municipalités. Il devrait aujourd'hui y avoir un mouvement pour reboiser toutes ces salles d'école parce que les enfants sont les plus précieux de notre culture actuelle, de notre société actuelle, pour qu'ils soient à l'aise et pour qu'ils aient déjà un message positif venant de la nature. Voilà les villes. Comment reboiser les villes? Bien sûr, on sait qu'il faut planter des arbres, mais on sait à quel point c'est difficile de planter des arbres. Et une chose qui est aussi inspirée des forêts des arbres, c'est le fait, comme on l'a dit hier, que la forêt reçoit les précipitations, mais n'utilise qu'une partie pour son propre fonctionnement. Et nos bâtiments, en fait, peuvent faire exactement la même chose. Ils ont déjà un système de captage des précipitations, ça s'appelle les toits. Mais aujourd'hui, on évacue ces eaux d'une manière tout à fait irréfléchie. Ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer ces eaux, les stocker dans le sous-sol. Il faut toujours stocker l'eau à l'abri de la lumière. Sinon, il y a des algues et l'eau commence à se déprécier. À l'abri de la lumière et alimenter non pas des arbres, peut-être aussi des arbres, mais alimenter la végétalisation des façades des bâtiments. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire qu'avec des arbres, parce que les lianes n'ont pas besoin d'avoir des racines support et des racines techniques ou bien mécaniquement aussi efficaces que les racines d'arbres qui doivent ancrer l'arbre et résister à toutes les contraintes. Les lianes n'ont qu'une fonction, ou deux ou trois quand même, stockage des substances, mais aussi capter l'eau, mais elles vont chercher l'eau partout où elle est. Elles n'ont pas besoin d'être solides et d'être équilibrées par rapport au vent dominant, etc. Donc, végétaliser des bâtiments avec des lianes, et là, c'est plus facile. Et surtout, on alimentait ces lianes avec l'eau que le bâtiment lui-même a captée. Et là, c'est extrêmement facile. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher plus loin. On ne dilapide pas de l'eau potable inutilement. Et on climatise naturellement. Lorsque vous aurez ces bâtiments qui seront comme des arbres avec des trous où vous aurez des fenêtres ou bien des ouvertures pour que les balcons puissent émerger de la façade végétalisée, vous aurez un climat totalement différent dans la ville. C'est énormément d'évapotranspiration qui aura lieu comme si la ville était une forêt, avec en plus les animaux, les insectes, les oiseaux qui vont pouvoir venir. Et ça, c'est très efficace, c'est très facile à voir, c'est très peu cher. Et ce qui est intéressant pour revenir à ces lianes, juste encore pour ça, c'est qu'on a une variété tout à fait étonnante. Naturellement, il y a le lierre, il y a des choses qui fleurissent comme... comme la clématite ou la célèbre magnifique fleur, la passiflore. Mais vous avez des choses qui font des fruits. Vous avez le kiwi. C'est fabuleux comme le kiwi pousse. Donc vous avez vraiment des façades fruitières. Et les plus intéressantes, c'est la vigne. La vigne ne demande qu'à monter jusqu'à 10 mètres de haut. Elle montait à l'origine dans les arbres. Il fallait des échelles pour aller l'accueillir. Et vous avez du houblon. Alors, soit vous aimez bien le vin, soit vous aimez le houblon, la bière, excusez-moi. Et puis, sur les toits plats qui filtrent l'eau, qui donneront une eau d'une très bonne qualité, là-bas, vous pouvez, par exemple, planter de l'orge. Voilà, il y a des tas de choses intéressantes à faire. Alors, les villes, les arbres, c'est des chiffres aussi. Des villes agréables qui climatisent, c'est par exemple ce qu'on mesure sur l'asphalte et le même asphalte sous l'ombre d'un arbre à quelques mètres de là, une différence de température de 20 degrés. Et si sous l'arbre, cet asphalte avait été enlevé et si on avait revégétalisé ce sol, ce serait encore beaucoup plus de différence. Si vous mettez sous un arbre ou sous un parasol qui ont la même ombre, la même densité d'ombre, quelle est la différence? Le parasol, naturellement, c'est pratique. On peut le fermer quand il n'y a plus de soleil. Il ne fait pas de feuilles mortes. Mais si vous mettez sous le parasol et vous ouvrez la main contre en haut, vous allez sentir que le parasol est un vrai corps de chauffe parce qu'il est sec, il accumule la chaleur, il diffuse la chaleur. C'est vraiment très chaud et si vous allez sous l'arbre, le même geste, vous allez sentir la fraîcheur de l'arbre. Donc vous pouvez choisir ensuite où est-ce qu'on va boire cette bière. Est-ce qu'on sera sous l'arbre ou sous le parasol? Voilà, alors ce qui est intéressant aussi, c'est la vue d'une rue occupée par des arbres. On ne se rend pas compte à quel point les arbres démultiplient l'espace. Chaque arbre a un devant et un derrière. Chaque feuille a une partie devant la feuille, une partie derrière la feuille. L'espace est démultiplié. C'est comme nos poumons ont beaucoup plus de facultés grâce à toutes ces alvéoles que si c'était simplement une poche. Ici, on fait la même chose avec l'espace et avec l'impression d'espace. Des villes où on ne se sent pas à l'étroit, c'est des villes qui ont beaucoup d'arbres de ce genre-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces feuilles reflètent la lumière dans toutes les tonalités et la lumière réfléchie est polarisée. C'est comme la lumière réfléchie par les lacs ou les rivières et là-bas, ça pousse beaucoup mieux. Les vignobles au bord des lacs, on en a des magnifiques en Suisse, reçoivent cette lumière polarisée qui a un effet sur la végétation. Donc ici, dans ces villes avec ces arbres et ces petits miroirs foliaires, on a des polarisation de la lumière avec le vert en plus. On parle toujours de vert dans cette histoire. Alors, pour l'écoute, naturellement, c'est les fréquences du vivant, c'est les oiseaux qui sont là, qui chantent, qu'on invite à revenir dans les villes. C'est Edgar Morin, ce maire du Costa Rica, qui a inventé la notion, non pas de la Smart City, la ville intelligente, hein, qui a beaucoup plus de technologies, dont on coupe les arbres parce qu'ils font écran à la 5G. Lui, il a développé le concept de la Sweet City, la ville douce. Ciudad Dulce, Edgar Morin, c'est presque comme votre philosophe, avec un A. Eh bien, ce qui est intéressant, lui, il dit, les villes vraiment intéressantes qu'il a essayé de développer pour la sienne, Curidabat, près de San José, c'est des villes qui ont la végétation au centre, des parcs où les gens contribuent, amènent leurs propres plantes, et ces parcs doivent être en communication avec la nature naturelle en périphérie, avec des corridors de biodiversité. Lui, il appelle ça des corridors pour les pollinisateurs. Et c'est le colibri qui lui a inspiré cette idée. Et il a développé ça de manière tout à fait objective, avec les argumentations. Et c'est ainsi qu'on peut imaginer ces villes revégétalisées, mais en connexion. Il faut que ça puisse circuler. Donc ici, on a redécouvert, il y a des technologies qui appliquent l'effet des fréquences acoustiques, le chant des oiseaux a des vertus thérapeutiques, on en est tous persuadés, on le remarque, et on s'en rend compte aussi au niveau de l'agriculture, on peut employer ces fréquences pour empêcher des maladies ou pour faire mieux pousser. Mais ce qui est encore mieux, c'est naturellement d'avoir des haies pleines d'oiseaux qui chantent au bon moment, à la bonne saison, pour les plantes qui sont activées par ces chants. Pour l'odorat, naturellement, c'est les parfums. Les parfums, c'est les parties les plus profondes de notre... Là, c'est vraiment du subconscient. On a ces références de parfums de notre première enfance. Et lorsqu'on retrouve une odeur, un parfum, c'est ce vieux souvenir qui vient, comme la première fois où on l'a senti. Et on n'a pas de mots pour ça. C'est beaucoup plus subtil. À peine du vocabulaire. C'est les gens du... des spécialistes du domaine qui ont un petit peu de vocabulaire à ce sujet-là. Et aussi l'ionisation de l'air, c'est la charge électrique, les forêts, les cours d'eau, ces villes végétalisées avec des vents qui vont les traverser, des vents doux, ça va dégager des charges ioniques négatives, riches en électrons, contrairement aux villes polluées qui ont une ionisation positive, où les électrons ont été absorbés, déchargés, et où on s'affaiblit énergétiquement. Voilà, retour au sens, au goût, au bon goût dans les villes. Avoir des villes fruitières, là, il y a des projets qui se développent un peu partout. Pas seulement des forêts fruitières, mais des villes fruitières où tout le monde est invité à planter, greffer, goûter, cueillir. Et se reconnecter au sol, là, c'est le sens du toucher. Invisible, mais ça se mesure. Ici, de nouveau, caméra infrarouge, les études médicales américaines, lorsqu'on se met pieds nus, au sol, on fait un geste, on a une attitude, un rapport à la nature, comme on l'a eu pendant des centaines de milliers d'années. On était pieds nus, toutes ces époques-là, ou alors avec des mocassins, semelles en cuir, saturées de sel, naturellement. Rien de tel pour conduire le courant électrique. Donc, on avait cette connexion à la terre électrique, et cette connexion a un effet antioxydant, anti-inflammatoire, avant et après. C'est le genre d'image que les recherches médicales ont montré. Donc, pour se débarrasser de maux de tête, d'allergies, etc., c'est vraiment curieux. On va pieds nus dans les forêts, peut-être en touchant les arbres. Mais le fait d'être pieds nus, c'est quelque chose de très ancien et très profond, très efficace. Et la vue sur les arbres est aussi très importante. Une découverte a été faite. Le bon sens aurait pu le savoir depuis longtemps. Que ça s'est fait dans un hôpital américain, le Sinai Hospital, à New York. Ils se sont rendus compte que toutes les pièces qui avaient la vue sur le Central Park avaient des taux de régénération, de convalescence plus rapides. On guérissait plus vite dans les pièces de l'hôpital qui avaient la vue sur les parcs, même sans y aller, même sans sortir. Et c'était dû à valider ça. Donc, ils ont réorienté, réorganisé leur hôpital pour que toutes... les soins continus puissent ensuite avoir lieu là où on a la vue sur les arbres. Ça a des conséquences inattendues. c'est que pour tous les bâtiments, en fait, que ce soit un hôpital, c'est déjà pas mal, mais toutes les maisons, en fait, ont oui ou non la vue sur les arbres. Et c'est mieux d'avoir une maison avec la vue sur les arbres parce que ça nous évitera d'aller dans les hôpitaux. Ou si on a des petites maladies, on sera plus vite guéri à la maison. Et donc, pour l'immobilier, ça devrait devenir intéressant de classer les immeubles en fonction du nombre de pièces qui ont de la vue sur les arbres. Et ça, c'est une manière intéressante de protéger les arbres. Plus les arbres sont grands, plus ils sont visibles. Donc, enfin, on a quelque chose pour protéger nos grands arbres. Quelque chose qui intéresse l'économie. Voilà, il y a la dimension cosmique des arbres qui sont connectés au cosmos. Là, j'ai fait beaucoup de recherches dans les effets de la Lune sur le bois, sur la germination, etc. Simplement pour rappeler ça. Et lorsqu'on est en contact avec les arbres, on a des fréquences électromagnétiques mentales du cerveau qui sont à peu près dans l'ordre de grandeur des fréquences qu'on a mesurées sur les arbres, surtout lorsqu'on est en train de chercher, entrer en phase de méditation ou de calme intérieur, de prière. Ça dépend quelle est l'intention ou la méthode d'harmonisation qu'on essaie d'appliquer. Eh bien là, on a des hypothèses ou bien des raisons de croire que les arbres nous facilitent cette entrée en quiescence ou en repos mental ou même en état de perception plus aiguë. En fait, en entrant en méditation, on est capable de percevoir les choses différemment d'autres natures. Voilà, c'est tout ce à quoi les arbres nous aident à parvenir. Et là, j'aimerais juste encore mentionner un projet qui est en train de s'élaborer, qui est déjà bien avancé. Comment se reconnecter à la nature pour retrouver une vraie santé, les jeunes? C'est la proposition d'un projet qui s'appelle les Sentiers des Savoirs. C'est faire un réseau des réseaux, et aussi des lieux simplement, qui ne sont pas forcément dans un réseau, qui sont déjà engagés dans la transition écologique. C'est en principe des traditionnels qui sont restés fidèles aux traditions, ou bien qui sont modernisés, mais en restant fidèles au respect de la terre, c'est le critère général. C'est des néo-ruraux qui ne se sont pas cassés la figure. Il y en a quelques-uns quand même qui ont réussi à traverser des phases difficiles, parce que c'est très, très compliqué d'être agriculteur, d'être paysan. Je viens de ce monde-là et je ne comprenais pas comment chaque jour le paysan savait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. C'était chaque jour autre chose. Alors qu'un fonctionnaire, c'est bien plus simple. Vous n'avez pas ce problème-là. Donc, un réseau des réseaux de la transition écologique, et là, on le met à disposition des jeunes et des moins jeunes. Il y en a beaucoup qui sont intéressés pour aller apprendre ces savoir-faire ou ces savoir-être là où des gens savent les pratiquer d'une manière économiquement viable. On ne veut pas envoyer des jeunes chez des gens qui font des expérimentations vouées à l'échec. On veut qu'ils aillent chez les maîtres du savoir-faire. L'idée du compagnonnage du Moyen-Âge qui revit d'une manière moderne, aller apprendre chez les meilleurs du savoir-faire. On n'allait pas dans les écoles pour apprendre à construire des cathédrales, on allait sur le chantier, chez les maîtres tailleurs de pierre et les charpentiers avant. Voilà, c'est ce projet. Et en plus, on propose de faire cette itinérance. Chacun fait son propre programme. C'est aux jeunes d'aller essayer, parce qu'il ne sait peut-être pas si ça va lui plaire ou pas, ou bien qu'il a toujours voulu apprendre l'apiculture, l'élevage, la pisciculture, etc., la vannerie, etc., tous les métiers, mais même des métiers modernes, le repair café, apprendre à réparer les objets. Ça s'apprend, ça ne se fait pas spontanément. Et là, il le fait, c'est notre proposition. On ne va pas contrôler. Il n'y a pas d'examen d'entrée ni d'examen de sortie. Il n'y a pas de contrôle. Mais on a un modèle économique. C'est que ça se fait à pied. C'est une transition intérieure par la marche. On va de lieu en lieu, de nouveau à pied, en étant absolument libre. Pas besoin de posséder une voiture, pas besoin de payer de transport public. Il suffit d'avoir un mois pour aller d'ici, jusqu'aux Landes. Même pas. L'Europe est beaucoup plus accessible à pied qu'on l'imagine. Il faut compter des étapes de 20 ou 30 km. Et en 10 jours, vous avez 200 km ou 300 km. En 20 jours, vous avez 600 km. Vous êtes partout tout de suite. Et ça, c'est pas simplement par goût de l'effort. C'est par conviction que l'essentiel aura lieu entre deux. C'est toujours le chemin qui fait le marcheur. C'est là qu'on mûrit, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on rencontre, que les synchronicités ont lieu. Là, c'est le mystère du voyage, surtout lorsqu'il a lieu à pied. Et le modèle économique, c'est que l'itinérante ou l'itinérant, ça peut se faire à deux aussi, paye une toute petite part de sa poche, mais c'est symbolique, c'est 5 euros par... Et on paye les nuits passées dans les lieux d'accueil où l'enseignement a lieu. Mais les gens font comme du woofing, ils vont travailler sur place, ils vont travailler à la ferme. Mais c'est pour apprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et en complément à ces 5 euros, des fondations, des sponsors, des parrains, des marraines, etc., des sympathisants, vont apporter 20 euros par nuit et itinérants passés dans les lieux d'accueil. Donc ça sera aussi un revenu complémentaire pour ces lieux qui ont su cultiver des savoir-faire et qui sont prêts à les transmettre. Il n'y a rien de plus précieux que ça. C'est bien plus précieux que les produits de ces cultures. Voilà, ça c'est ce projet qui existe en France avec son adresse e-mail. Et en Suisse, on vient d'avoir un site e-mail aussi, une adresse pour le site. Et c'est ce que je voulais vous montrer ou évoquer aujourd'hui. Merci pour votre attention. Excusez-moi, j'ai fait un peu trop long. J'espère que c'est bien allé quand même.